Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Salut les fous du volant, c'est reparti pour un nouvel épisode de votre podcast consacré à la Formule 1 avec Stéphane Vrignot. T'es prêt pour Imola, mon Stéphane ?
Oui, écoute, circuit traditionnel, reprise de la saison européenne, on va dire. Donc on attend ça avec impatience dans un des fiefs de Ferrari aussi. Beaucoup d'effervescence et puis des nouveautés du côté de Mercedes, donc tout ça c'est excitant.
Le week-end prochain aura lieu la 6e épreuve de la saison, ça sera donc le Grand Prix d'Émilie-Romagne sur le tracé d'Imola, je le disais, ça sera la première étape européenne effectivement en 2023 et c'est traditionnellement là que débute ce qu'on appelle la silly season, qu'on pourrait traduire par le jeu de dupes, là où on commence à entendre un petit peu tout et n'importe quoi sur les pilotes, sur les équipes, sur les transferts en règle générale. Alors dans les fous du volant, on a décidé de faire une sorte de point avant que la kermesse ne débute. On a évoqué la semaine dernière aussi avec Julien Pereira le possible danger que représentait la domination de Red Bull sur le reste du peloton en 2023. Alors, avec Stéphane, on aimerait bien évoquer quelques pistes pour donner plus d'intérêt à la discipline et pour échanger sur le sujet. On aura un invité, Jackie Ekelhart, le célèbre ingénieur belge de la Formule 1, qui viendra nous donner son avis sur les propositions qu'on lui fera. Et puis, évidemment, on profitera de la présence de Jackie Ekelhart pour évoquer l'incroyable performance des Red Bull, notamment avec l'intervention du DRS. Et puis, pourquoi pas essayer de deviner ce que nous prépare Mercedes, hein, qui nous a promis de gros changements, de grosses évolutions sur la W14 pour ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Ce podcast, qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou par Apple Podcast, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de ces manières, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. Et comme promis, on débute aujourd'hui donc en faisant un point avant d'entamer la silly season, parce que le retour...
Je crois que la silly season a démarré sans nous.
Ouais,
j'ai vu des trucs passer et je pense qu'il faut faire le truc.
Mais justement, c'est pour ça. L'idée, c'est vraiment d'arrêter le truc en vous disant voilà où on en est. Et après, voilà, ça va partir un peu dans tous les sens. Stéphane, si on commence par les choses qui devraient pas bouger, chez Red Bull, Verstappen, Perez.
Ça, c'est gravé dans le marbre.
Stabilité, ça sera à peu près pareil chez Mercedes. On avait parlé avec Jean Alesi d'un Hamilton qui devait s'intéresser à Ferrari. Ça ne bougera pas non plus chez Mercedes, on est d'accord ?
Il veut un contrat au-delà d'un an, donc peut-être 2 ou 3 à son âge, 38 ans. C'est tout à fait possible, oui, je le vois signer 2 ans. Ça serait logique.
Ensuite, Ferrari, Charles Leclerc, a priori, il a quand même... démontrer qu'il était très attaché à Ferrari, il l'a confirmé, il dit que ça va même encore être davantage confirmé.
Voilà, il promet qu'il y aura du nouveau prochainement et il a dit effectivement que pour lui, malgré les revers, c'est Ferrari qui était dans ses projets pour les années à venir. De toute façon, il est booké jusqu'en 2024.
Donc, exactement. Il reste Carlos Sainz chez Ferrari, où là, on se dit, attention, c'est peut-être un petit peu moins boulonné que du côté de chez Charles Leclerc.
Alors, situation en trompe-l'œil, si on regarde bien le championnat, il a 44 points, Charles Leclerc 34, mais c'est Charles Leclerc qui a signé la pole position, qui a signé même le seul podium aussi pour la Scuderia. Et Sainz, on l'a vu, un peu en difficulté. Et pour tout dire, pour la deuxième année consécutive, il n'a pas confiance dans la voiture. Il n'est pas bien. Ses résultats sont très irréguliers. Et il est même un peu, moi je le trouve, un petit peu limite pour un numéro 2. On attend beaucoup plus de lui, qu'il soit un numéro 1 bis, ce qu'il est parfois, mais pas assez souvent. Moi, je trouve qu'il y a un petit peu matière à regarder un peu plus loin autour de lui. Et d'ailleurs, il s'est un petit peu agacé de certaines rumeurs l'envoyant ailleurs.
Mais alors, c'est là que je trouve que c'est très parlant. C'est qu'en général, quand il y a des rumeurs qui envoient un pilote, en tout cas, quand le nom d'un pilote circule dans d'autres équipes, c'est plutôt toujours flatteur, toujours intéressant. Et lui, il le prend mal. Ce qui prouve qu'en fait, il prend plus ça comme un facteur de menace. Plutôt que du côté flatteur. On parle de lui pour aller piloter Audi, c'est ça?
Oui, ah bah attends, même, c'est même mieux que ça, c'est Audi qui parle de lui, oui. Directement. Il y a quelques mois, ils ont dit un pilote comme Sainz nous intéresse. Ça, c'était clair, ils l'ont redit il n'y a pas très longtemps. Et ils ont donné une autre info concernant les pilotes. Ils ne laissent pas beaucoup de place aux rumeurs, mais ils ont dit, une chose est sûre, Mick Schumacher ne nous intéresse pas. Voilà, c'était les deux informations qu'ils avaient données. À part ça, le reste, ils ne rentrent pas dans ce petit jeu-là. Ils pensent à structurer l'équipe, on en reparlera tout à l'heure. Mais chez Ferrari, on se pose peut-être la question. Alors, pour l'instant, c'est ce qui domine les débats, c'est évidemment la qualité de la voiture.
Exactement, hein, oui.
On n'en est pas encore à penser à ça. Mais je trouve qu'ils peuvent engager une réflexion. Voilà, c'est ça, parce qu'il a un contrat jusqu'en 2024. Moi, je ne sais pas, je serais son conseiller. J'essaierais peut-être d'attraper un contrat de 3 ou 4 ans chez Audi, si on veut bien lui présenter.
Il y a des connexions hein, entre la famille Sainz et le groupe Volkswagen. On
Exactement.
Rappelle que le père, Carlos Sainz, a longtemps roulé chez Volkswagen en rallye.
Oui, et ce qui agite aussi Maranello, c'est plutôt du côté de la cellule technique où là on essaie de viser des techniciens de haut vol quand même, et Fred Vasseur a démarché le directeur technique officiel, je dirais Pierre Vacher, qui est un Français,
de chez
directeur
Red Bull.
Technique de chez Red Bull, et le chef aéro Enrico Balbo, qui n'ont pas donné suite. Il se murmure qu'il y a deux ingénieurs importants qui viendraient quand même de Red Bull chez Ferrari, et ça donne matière à quelques négociations, je dirais, pour essayer de trouver un arrangement pour lâcher Laurent Méquès, parce que c'est quand même assez étrange. Il est annoncé dans une autre équipe et qui est l'ennemi, c'est la Red Bull Galaxy, hein, AlphaTauri.
Ouais.
Est-ce qu'il faut le garder encore plus longtemps avec toutes les informations sensibles auxquelles il peut avoir accès, et pour les emporter ensuite chez Red Bull, parce que là aussi c'est Christian Horner hein, qui le fait venir chez AlphaTauri. Bon voilà, c'est un petit peu délicat, donc c'est pas tant sur les pilotes, mais je dirais Sainz, il est un petit peu agacé, à raison, parce que sa cote a baissé clairement depuis l'année dernière.
Oui, clairement, il a souffert. Hein. Et c'est vrai que tu le disais, en trompe-l'œil, il a plus de points que Charles Leclerc au classement des pilotes cette saison. Mais clairement, à chaque fois qu'il se passe quelque chose pour une Ferrari, c'est Charles Leclerc qui,
souvent, tous les cas, oui.
qui en est à l'origine. Le sujet Carlos Sainz chez Volkswagen, d'abord, il y aura l'étape Sauber, puisque là en ce moment c'est Alfa Romeo, ça va passer Sauber pendant deux saisons et ensuite oui. ça deviendra Audi.
Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'effectivement il y a un contrat de sponsoring Alfa Romeo et de branding de la marque jusqu'en 2023 qui s'arrête à la fin de la saison, donc l'écurie va redevenir Sauber. Ce qu'elle est au plan opérationnel, c'est une usine Sauber à Einwil en Suisse. Et il y a deux choses qui changent, c'est la marque du châssis et le nom commercial, je dirais, de l'équipe. Après, ça va redevenir Sauber pendant deux ans avant de passer sous pavillon Audi. Et moi, je trouve que c'est les choses les plus intéressantes se passent peut-être autour d'Audi en ce moment.
Autour de cette équipe, effectivement, parce que Valtteri Bottas et Guanyu Zhou, clairement, ont peut-être un petit peu de soucis à se faire. Bottas, non, il a un contrat qui est quand même encore assez long, Stéphane.
Oui, 2025.
Mais a priori,
alors, en plus, c'est lui qui a signé la seule Q3 quand même. C'est quand même un sacré déclassement par rapport à l'année dernière.
Et
la seule Q3 en 2023.
Et puis il a ce prestige de son passé chez Mercedes. Quand on s'appelle Volkswagen, on se dit qu'il y a quand même des méthodes, des process qu'il est susceptible d'amener et qui peuvent être intéressants. C'est pas le cas du tout de Guanyu Zhou.
Alors Guanyu Zhou, son problème justement, c'est qu'il a été voulu, il a été engagé par Alfa Romeo pour doper la notoriété et les ventes sur le marché chinois. Et à partir du moment où Alfa Romeo s'en va, bah là il est absolument précarisé par cette situation, la fin de ce deal. et il a été quand même un petit peu ballotté par, par Bottas cette saison. Moi, je le trouve pas spectaculaire, je dirais, dans ses performances.
Autant c'était honorable l'année dernière, autant cette année, ça plafonne un petit peu, j'ai le sentiment.
Il rame un peu, tout à fait. Et moi, je pense que c'est là-dessus que son baquet est en danger, clairement. Et je prends un petit pari sur le nom d'un potentiel successeur l'an prochain. Moi, je miserais bien sur Daniel Ricciardo.
Daniel Ricciardo, chez Sauber.
Tout à fait, ouais. Parce que là, c'est pareil. Autant tu dis que Bottas a l'argument Mercedes, eh bien, Daniel Ricciardo, il est revenu cette année chez Red Bull. Je ne sais pas à quel niveau d'information il est sur tout ce qui se passe en termes de technique, mais en tous les cas, il a refait sa mise à jour, je dirais, avec une équipe gagnante. Et ça vaut toujours quelque chose sur le marché des transferts.
Et c'est un vainqueur de Grand Prix aussi. Il y a ce prestige aussi. Hein, quand on est un grand constructeur, on veut aller chercher des pilotes qui ont remporté des succès.
Je pense que ça serait une bonne pioche. Alors, le petit bémol, simplement, c'est qu'il a connu Andreas Seidel chez McLaren. Et je pense que c'est lui qui aura le final cut là-dessus. Qui sait ce que peut apporter un Daniel Ricciardo dans une équipe? On verra. Autrement, ça peut être une opportunité très intéressante pour un Français.
Eh oui, qui avait été aussi hein, dans la shortlist et qui n'avait pas eu le volant chez Alfa Romeo. Je te laisse nous donner ton nom.
Ah bah Théo Pourchaire. Oh,
pardon, pas le tien. Ça y est, c'est trop tard pour toi, Stéphane, je suis désolé.
Ah oui, là, j'ai passé la date. Théo Pourchaire qui mène le championnat de Formule 2 cette année. C'est bien, il attend la place. Son principal, sa principale caution, c'était Fred Vasseur qui voulait vraiment le promouvoir. Mais je ne pense pas qu'avec ces résultats-là, ça va lui nuire. Et en tous les cas, je le vois dans le match aussi pour saisir une opportunité. Si effectivement, on dit, quand on fait le bilan un petit peu sportif, financier, en termes de promo, c'est un petit peu terminé. Et on passe à autre chose. Donc, j'attends de voir, mais ça peut être une réelle opportunité pour lui.
On va faire le point aussi sur AlphaTauri parce que Yuki Tsunoda et Nyck de Vries, il y a aussi des choses là qui vont se passer autour de cette équipe. On parlait tout à l'heure de Laurent Méquies qui devrait arriver dans cette équipe. Ça, c'est évidemment pour le côté technique. Du point de vue des pilotes, on entend déjà beaucoup de choses sur Nyck de Vries, qui ne fait pas le début de saison qu'on espérait, qui n'est pas à la hauteur de sa prestation lors de son remplacement l'année dernière chez Williams. Ça va bouger. On attaque peut-être par Tsunoda, déjà.
Alors, mais Tsunoda, il donne satisfaction à entendre Helmut Marko. Il est soutenu par Honda. Alors, Honda, c'est fantastique parce qu'ils ont payé, tu te souviens bien, pour partir de chez Red Bull. Ils ont payé pour revenir, pour de nouveau s'inscrire sur les carrosseries, et avec un pilote du cru. Mais il y en aura peut-être un autre prochainement, on verra, parce que Nyck de Vries s'est fait battre quand même 4 fois sur 5 possible par Tsunoda en qualif. Il a reçu un carton jaune de la part de Helmut Marko, donc le recruteur en chef du clan Red Bull. Donc il est vraiment en porte-à-faux. Et Helmut Marko cite deux noms. Alors il donne 3 courses à De Vries pour faire ses preuves, et il cite deux noms qui appartiennent au vivier de Red Bull. Il a dit on ne prendra pas l'extérieur, hein. On prendra Liam Lawson, le néo-zélandais qui est pour l'instant en Super Formula, donc au Japon, ou bien un pilote nippon, Ayumu Iwasa, dont on a déjà entendu parler l'année dernière. Ça nous ferait quand même 2 japonais chez AlphaTauri. Ça serait très marqué Honda, alors que le deal arrivera à expiration en 2025.
Ouais, exactement. Et alors que Honda, on en parle aussi du côté d'Aston Martin, hein, qui pour l'instant est motorisé par Mercedes, aimerait bien sortir du giron de la firme à l'étoile. Et vu que Red Bull va s'associer à Ford, là on parle de l'horizon 2026. Hein, on est bien d'accord. C'est pas pour la saison prochaine. Bah, Aston Martin commence à prendre des contacts avec Honda, ce qui va réjouir Fernando Alonso. Retrouver un moteur de GP2.
Il y aurait même un deal qui serait signé, alors ça c'est vraiment la rumeur. Honda s'est proposé à McLaren. Curieusement, en fait, Zak Brown a dit non poliment, je dirais, à voir. Mais ça serait plutôt du côté d'Aston Martin qu'il faudrait chercher. Alors ce qui est quand même marrant, c'est qu'on parlait des pilotes qui sortait un petit peu affaibli de ce début de saison. Alors là, pour le coup, avec Lance Stroll, on est carrément en plein dedans. Hein. Il a pris 5-0 en qualif de la part d'Alonso. Et là, il prend quand même 27 points sur les 5 premiers Grands Prix, quand Alonso en prend 75.
Alonso qui regarde les courses de Lance Stroll sur les écrans géants à Miami. À ouais, c'est un beau dépassement qu'il a fait.
Tout à fait. Alors, il continue de passer de la pommade, c'est assez drôle. Mais Lance Stroll, il n'a rien à craindre. Et Alonso, simplement, il a un contrat jusqu'en 2024. Et je dirais qu'il ne veut pas voir au-delà. C'est vrai qu'il va avoir 42 ans, donc il en aura 43 l'an prochain. Il faut se souvenir quand même de ce qu'a dit poliment Otmar Szafnauer, l'ancien directeur d'équipe d'Aston Martin. Il a dit, bon, il arrive à 42 ans, tout le monde, tout pilote aborde la dernière partie de sa carrière et amorce un déclin à cet âge-là. Ça n'est qu'une question de temps, mais Alonso le vivra aussi. Bon, alors on verra un peu après ce que Aston Martin préparera pour l'avenir, mais c'est aussi une question à se poser, sachant qu'il pourrait avoir aussi Honda comme partenaire en 2026, donc peut-être un pilote japonais, mais Lance Stroll avec un jeune japonais, je vois pas comment
pas.
Ça pourrait tourner.
Et puis j'ai envie de te dire, un Fernando Alonso qui décline, ça sera supérieur à beaucoup, beaucoup de pilotes qui sont aujourd'hui sur la grille et il a le temps de décliner pendant plusieurs saisons. Donc voilà pour Aston Martin avec Honda. Qu'est-ce qui nous reste? Peut-être Alors, avoir Alpine. Aussi un tout petit peu d'Alpine. On
tout
avait évoqué la semaine dernière la piste Mattia Binotto avec Julien Pereira.
Alors vous avez évoqué le Mattia Binotto directeur d'équipe.
Oui.
Qui pour moi n'est pas
la meilleure
solution.
Pas
la priorité.
Et c'est vrai qu'on n'y a pas pensé, mais je mets à coup le pas, tu as raison.
Parce que Otmar Szafnauer, c'est un très bon dirigeant administratif, je dirais.
J'allais dire gestionnaire, mais on prend ça pour un terme un petit peu péjoratif d'habitude,
tout,
mais c'est plutôt
tout.
Dans le bon sens du terme.
C'est quelqu'un
que je dis ça.
Qui connaît tous les aspects du métier à 360. C'est vraiment un super, super pro. Il a été encensé par Laurent Rossi, qui a mis un petit coup de pression.
Ah, oui.
Mais Szafnauer a dit zéro pression. Pour
oui.
moi, donc je pense qu'il sait que son poste n'est pas en question, mais on a parlé de Mattia Binotto, je trouve que c'est une bonne idée, mais pour une autre équipe.
Ah.
Oui, je te donne un petit indice, il a une double nationalité, italien et suisse.
Chez Sauber ?
Tout à fait.
Ah, on y revient.
Moi, je suis Sauber, je cherche à avoir Mattia Binotto pour booster ma cellule technique. Pour venir en compétition en 2026 avec un super châssis pour tout mettre en place. Il a toujours travaillé en Italie, la Suisse est juste à côté, c'est aussi l'un de ces deux pays de cœur et de passeport. Donc moi je pense que je dirais que ça serait assez logique. Voilà. Après, il est tenu à une certaine... un certain recul, parce qu'il y a le fameux gardening leave, je crois que c'est juste que...
La clause de jardinage. Donc,
2023, il ne peut pas signer ailleurs, mais je dirais que Sauber aurait peut-être raison de lui faire les yeux doux, parce que Andreas Seidel, il va avoir du budget, il a des idées précieuses sur ce qu'il faut faire. Mattia Binotto, ça serait une bonne pioche.
Alors, et du coup, si Mattia Binotto prend la direction de Sauber, quelle solution reste-t-il? Quelle solution vois-tu pour Alpine dans une gestion un petit peu sportive? J'ai vu aussi le nom de Eric Boullier circuler à la suite du podcast qu'on avait publié la semaine dernière.
Ouais, mais il connaît bien la maison, surtout. Il a un petit peu essuyé les plâtres, parce que quand il est arrivé, bon, bah, il y a les Anglais qui l'attendaient de pied ferme, on va dire, parce que c'était... d'abord, ils considéraient que l'écurie était une écurie anglaise. Bon, c'était quand même Renault, quoi. Donc, il a fallu qu'il se fasse respecter. Il l'a été, clairement. Ça serait certainement une bonne idée. Mais moi, je trouve qu'il faut un soutien simplement à Otmar Szafnauer, qui serait plus un lien avec les pilotes. Et j'en viens toujours à ce rôle qu'avait Niki Lauda chez Mercedes. Il faut quelqu'un qui connaisse bien, qui sache aussi communiquer. J'ai dit ici qu'Alain Prost, pour moi, ça me paraissait insuffisant, parce qu'il n'allait pas au bout du raisonnement, de pouvoir critiquer aussi les gens quand ça ne va pas bien, donner des bons points ou des mauvais points aux pilotes. Et je trouve que ça serait plus du côté des pilotes qu'il faudrait chercher, avec un rôle un petit peu administratif. Mais Berger, ça ne l'intéresse pas apparemment de revenir, mais c'est un profil un petit peu comme ça qu'il faudrait. Après, Szafnauer, non, il fait du très bon travail. Je pense que Alpine a aussi démarché Mattia Binotto, mais dans l'optique d'être directeur technique, parce qu'on le sent bien, on attend. qu'Alpine franchisse un palier.
Ça, c'est sûr.
Et ça se fait un petit peu attendre. Et Mattia Binotto, il arrive, on lui déroule le tapis rouge et puis il fait une Ferrari bleue à partir de 2025 et c'est réglé.
Le rouge, ça lui, je crois qu'il a fait une croix dessus. Il nous reste à évoquer rapidement, très très rapidement,
oui.
McLaren.
Alors, les pilotes sont difficiles à juger parce que la voiture est mauvaise, tout simplement. Zach Brown l'a dit. Piastri, on en attend monts et merveilles. On vous l'a dit, on l'a annoncé comme un futur crack. Baku, il est malade. Au dernier Grand Prix, dès le début de course, son châssis est faussé. Il y avait un gros problème de performance. Il a fait bonne figure. Donc, à voir. De toute façon, ce n'est pas les pilotes qui sont menacés. Et puis, chez Haas, moi, je pense que ça va rester en l'état, même si Steiner dit « Ricciardo peut m'appeler quand il veut ».
Voilà. Ça, au moins, c'est clair.
Et enfin, c'est peut-être pas dernière écurie, mais il ne faut peut-être pas la négliger, c'est Williams, où apparemment Toto Wolff viserait quand même le baquet de Sargeant pour recaser Mick Schumacher.
Oui, alors je veux bien qu'on essaye de replacer Mick Schumacher. Alors, je ne vois vraiment pas comment on pourrait débarquer le seul Américain du paddock de la F1 en ce moment, même si évidemment Logan Sargeant, il n'a pas éclaboussé la Formule 1 de son arrivée. Bon, il n'a pas été totalement ridicule non plus, hein. c'est pas, ça ne doit pas être facile non plus.
Non, mais souviens-toi de ce que nous avait dit Gwen Lagru, le talent scout en fait, bras droit de Toto Wolff dans la cellule de recrutement avec Jérôme D'Ambrosio. Il avait dit Sargeant, il a bien roulé lors du premier Grand Prix à Bahreïn parce qu'il connaissait la piste par cœur. On verra par la suite, ça risque d'être un petit peu plus dur. Et là, ils semblent un petit peu mis sur la sellette, mais ils ont pris un débutant. Donc, on ne va pas faire un bilan au bout de 5 courses. On lui laisse une demi-saison pour apprendre et puis la deuxième partie de saison pour progresser. Et puis, on en reparlera. On verra si ça se trouve, il va faire des belles performances. Et la piste Mick Schumacher va s'éteindre malgré l'insistance, je dirais, de Toto Wolff qui avait échoué déjà une première fois à placer ses pilotes chez Williams.
Bon, enfin voilà, ça y est, ça frémit, c'est parti. On revient en Europe là, avec une séquence de 3 Grands Prix. La silly season va monter en puissance et on va en entendre un petit peu des vertes et des pas mûres, des choses qui pourraient être intéressantes et puis d'autres qui vont être totalement délirante. Ça fait partie du jeu, c'est pour ça que ça s'appelle la silly season. Pour la suite des fous du volant aujourd'hui, on reçoit j'ai envie de dire un des parrains de l'émission, Stéphane Jackie Ekelhart, éminent ingénieur en Formule 1, passé par Peugeot, par Honda, par Ford, ingénieur de Kimi Raikkonen, de Jenson Button. Merci beaucoup Jackie de rejoindre une nouvelle fois la confrérie des fous du volant. On a évoqué la semaine passée, pour tout vous dire, la dangerosité potentielle de l'ultra-domination des Red Bull. Et on ne veut pas s'arrêter, en fait, à un simple constat. On aime être pourvoyeur de solutions. Alors, on s'est posé la question avec Stéphane. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on aimerait bien voir mettre en place pour essayer de renforcer, alors non pas le spectacle, parce que ça, en ce moment, on voit que les promoteurs de la Formule 1 ont beaucoup ce mot-là à la bouche, mais surtout l'intérêt. Ça veut dire le spectacle et aussi le point de vue sportif de la Formule 1. On va vous proposer 3 solutions. Et puis vous allez nous dire ce que vous en pensez, si vous le voulez bien. Stéphane, je te laisse faire la première proposition, puisqu'elle émane de ton esprit.
Je l'ai déjà évoqué ici. Alors, on parle bien de l'intérêt des courses, hein, pas du folklore qui précède le départ, avec cette tonne d'invités de la fan de la dernière heure de Formule 1. On ne parle pas du tout de ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe entre le coup d'envoi de la course et puis le drapeau à damier. Comment est-ce qu'on pourrait avoir de meilleures courses du point de vue du sport? Moi, je pense qu'il faudrait supprimer la radio, ce qui a été fait, ce qui a été tenté en 2015. Et pour interdire le coaching, je m'explique. Aujourd'hui, si Max Verstappen part en pole position, il a à peu près 95% de chances de l'emporter. Et s'il y a un léger flottement dans sa course, s'il y a une décision à prendre, pouf, il appelle la hotline. Allô, patron, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous décidez pour moi? Et là, on lui livre clé en main la solution si il est en détresse sur l'usure de ses pneumatiques, s'il y a un coup de stratégie à faire, on va lui apporter clé en main la solution. Mais les pilotes veulent avant tout être considérés comme des grands garçons. Alors, allons jusqu'au bout des choses, donnons-leur les clés de la course.
Ça veut dire on arrête finalement les consignes à la radio.
Tout à fait. Alors, ça, c'est encore une autre conséquence, mais je dirais que j'aimerais que les pilotes décident de leur plan de course, gèrent le pneu, quand est-ce qu'ils rentrent, quel type de pneu ils passent, comment ça, voilà, ça se passe. Et puis, effectivement, derrière ça, bah, ça supprime les consignes d'équipe, les arrangements, etc. Mais du point de vue de l'équipe, du point de vue de leur relation ingénieur-pilote, est-ce que ça serait faisable, je dirais, sur le long terme? Et quels seraient les obstacles, je dirais, et les avantages?
Bon, je pense qu'en effet, ça pourrait améliorer les spectacles d'un côté. D'un autre côté, quand même, la liaison radio entre l'ingénieur, l'équipe et les pilotes, c'est aussi une question de sécurité un tout petit peu, parce que supposons il y a un crash, on passe par les débris, même si c'est safety car, tout ça. Si par exemple, on voit dans la télémétrie qu'il y a un pneu qui est crevé, qui est en train de se dégonfler lentement, le pilote ne le sent pas encore, mais c'est normal qu'on puisse quand même, le pilote de la crevaison, le faire rentrer pour changer le pneumatique. C'est une question de sécurité. Et pareil, si le pilote, comme on a vu encore récemment à Bakou, il sort un peu large d'un virage, il touche l'arrêt de sécurité, il se pose la question, il est dit à la radio, est-ce que j'ai une suspension abîmée, est-ce que j'ai un pneu abîmé? Pour ces questions de sécurité-là, la radio, c'est quand même, je dirais, quasiment indispensable. Bon, je sais que dans le passé, il n'y en avait pas et ça marchait aussi.
Mais non, mais la question de la sécurité est très importante, je suis complètement d'accord. Et on peut imaginer, effectivement, ouvrir le canal pour des questions essentielles de sécurité ou se placer, savoir où placer la voiture sur un abandon pour ne pas gêner. Il y a des choses comme ça qui sont
signaler les débris,
vitales, tout à fait.
Signaler l'intervention d'une voiture de sécurité.
Je dirais que l'intérêt de tout ça, pour un pilote, quand il construit son plan de course, c'est que même un garçon comme Max Verstappen, s'il prend une mauvaise décision, s'il gère mal ses pneus, ça le met de côté dans la course à la victoire. Ou si derrière lui, il y a un challenger qui fait un choix de pneu décalé et payant, il peut aller au bout de sa démarche, parce que si lui, il a fait un bon choix avant les autres, eh ben, Red Bull appelle Verstappen en disant, il y a un tel qui a pris des tels pneus, arrête-toi tout de suite, prends-le. Et puis l'affaire est réglée. Là où le challenger qui est quatrième ou cinquième aura pu faire un joli coup et même remporter la course, eh bien, on annule cet avantage. Moi, c'est ce que je trouve un petit peu dommage. Alors, même au-delà de tout ça, finalement, ma proposition, ce serait les essais, c'est le temps de la relation technicien-pilote, et puis la course, c'est vraiment pour les pilotes.
Ce serait une belle chose, en effet. Mais bon, on va en effet interdire aux écuries de appeler les pilotes pour faire un changement de pneumatique, ça c'est clair. Alors, c'est à lui de décider de tout ça. Mais bon, il faut quand même bien, bien contrôler, parce que supposons qu'on peut quand même avoir une connexion avec les pilotes pour des raisons de sécurité. Au moment du pit stop, l'équipe veut changer de pneumatique et pourrait dire au pilote « Oh, on pense que tu as une crevaison. » Voilà.
Eh oui, et c'est des malins.
je cite quand même.
Donc, alors, c'est de nouveau à la FIA d'aller contrôler s'il y avait une crevaison, oui ou non. Enfin, ça complique les choses. C'est pas évident quand même.
Ouais. Je retiens l'une des phrases, en fait, même pas plus tard qu'à Miami, parce que des fois, c'est un petit peu excessif aussi. Hein. Verstappen appelle Giampiero Lambiasse, son ingénieur, en lui disant « Dites-moi comment est la dégradation en médium pour savoir ce que je dois faire, ce qu'on doit faire sur l'aileron avant. » Et là, c'est Lambiasse qui lui répond quand même « Je suis sur le muret, je m'en occupe, tu pilotes. »
Oui.
Alors ça, en décodé, ça veut dire « Leave me alone », ça c'est une nouvelle relation ingénieur-pilote.
Ouais, c'était étonnant d'ailleurs comme échange. En fait, l'idée, Jackie, c'est d'essayer de redonner un petit peu plus de clés. Alors je comprends que vous, ça vous laisse un petit peu sur votre faim parce que vous êtes ingénieur, mais c'est de redonner aussi une partie des clés du succès aux pilotes. On sait qu'il y a des pilotes qui sont capables d'être clairvoyants en roulant vite, d'avoir une vision stratégique de la course. Là, on a parfois le sentiment que c'est un petit peu un match à Roland-Garros avec l'entraîneur du tennisman qui est sur le terrain, à côté de lui, et qui lui dit « Mets la balle à gauche, mets la balle à droite, mets la balle au centre, tire plus fort, fais un lob. » À un moment, il faut bien que les pilotes aient aussi cette capacité. On a eu dans les années 80-90, à un moment où la radio n'était pas encore aussi omniprésente, des pilotes qui s'illustraient justement par leur capacité à aller chercher la bonne stratégie, à s'adapter eux-mêmes, alors que là, c'est vraiment quelque chose qu'on leur a totalement enlevé l'aspect stratégique est devenu totalement inutile pour un pilote aujourd'hui.
Oui, c'est vrai qu'avec tous les ingénieurs de stratégie et les stratégistes, avec tous les logiciels qu'on a, on peut prévoir avant la course quel est le moment idéal pour changer de pneumatique. mais quand même, il y a des imprévus. Hein, donc, les drapeaux jaunes, les safety cars, machin, tout ça. Mais bon, ça, c'est clair pour le pilote lui-même. Je pense que sous safety car, quand les pneus sont quasiment au bout, il rentre pour changer de pneumatique. Mais bon, c'est vrai que si on enlèverait toute cette interférence avec les ingénieurs stratégistes de la course, ça rendrait probablement le résultat de la course, le déroulement de la course un peu plus aléatoire. Plus responsabilité du pilote que des ingénieurs, je serais pas mal. Mais comment introduire ça, c'est pas évident.
Ah oui, c'est sûr que ça serait pas évident. Mais non, nous, on n'est pas là pour trouver des solutions évidentes. On est là pour essayer de trouver des choses qui soient un petit peu sexy. Alors, la dernière proposition qu'on voulait soumettre à votre jugement, ça serait un peu plus technique, là, pour le coup. On a vu, avec les modèles arrivés en compétition en 2022, une sorte d'uniformisation, en tout cas l'idée d'une uniformisation, au moins d'abord dans l'idée sur le plan aérodynamique. Moi, je propose de faire un extracteur commun à toutes les voitures, et on le développerait dans l'idée d'éviter au maximum les turbulences, de manière à ce que les voitures puissent se suivre au plus près pour pouvoir dépasser. Parce que là, on voit bien que les dépassements aujourd'hui, je ne sais pas, 90% des dépassements, c'est du DRS. Et c'est un peu de la Formule 1 à la sauce Disneyland, quoi. On voit des dépassements, mais ce n'est pas vraiment un dépassement dans la règle de l'art. Si on mettait tout le monde avec le même extracteur, le même diffuseur à l'arrière de la voiture, déjà, ça fait faire des économies aux équipes, parce qu'elles n'ont pas à le développer. Tout le monde a le même. On le développe de sorte que les voitures puissent se suivre et donc favoriser les dépassements. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, écoute, c'est sûr que c'est, enfin, l'uniformisation des pièces, c'est quelqu'un qui va dans le sens de diminuer le budget, ça c'est vrai. Égaliser les performances, ça dépend, parce que bon, maintenant, bon, dans le passé, il y avait un fond plat, un extracteur. Maintenant, il n'y a plus de fond plat. C'est des pontons courbés par en dessous, donc un peu des ailes inversées, et un diffuseur. Donc, dans ce cas-là, il faudra carrément avoir un fond plat identique pour tout le monde. Donc, bon, c'est une possibilité, c'est à étudier, certainement. Mais je pense qu'au niveau des dépassements pendant un Grand Prix, si un pilote sait qu'il peut dépasser dans la prochaine ligne droite avec la zone DRS sans prendre de risque, bah, il ne va pas prendre le risque de se foutre dans le décor en essayant un freinage kamikaze. Hein. Ça, c'est clair. Si on sait qu'il peut dépasser sans risque, on ne va pas prendre le risque, ça c'est sûr, et foutre sa course en l'air potentiellement. Sans DRS, de nos jours, ils sont très difficiles parce qu'il y a tellement d'appui aérodynamique. Les voitures freinent à haute vitesse, au moins à plus de 5G, et donc les distances de freinage sont extrêmement courtes. Si on aurait moins d'appui aérodynamique, les distances de freinage seraient plus longues. C'est un peu comme sous la pluie. La pluie est toujours là, mais il y a moins de grippe. Les distances de freinage sont plus longues sous la pluie. Et donc forcément, il y a plus de dépassements au freinage sans DRS. D'ailleurs, sous la pluie, il n'y a pas de DRS autorisé. Et je pense qu'en effet, les Formule 1 actuelles ont trop d'appui. Et donc, c'est énorme quand même, parce que c'est plus que 20 000 newtons à 300 km à l'heure. Donc, c'est énormément d'appui. Si, par exemple, on peut le faire à travers du règlement, on réduisait l'appui à la moitié, par exemple, ben, les distances de freinage seraient beaucoup plus longues. Et là, tu as plus de temps, celui qui a le courage de le faire, de dépasser sans DRS, parce qu'il y a une certaine zone de freinage. Regardons par exemple les MotoGP, qui font les mêmes vitesses de pointe que les Formule 1, mais comme ils n'ont pas d'appui ou quasiment rien d'appui, les distances de freinage sont énormes. Là où une Formule 1 freine de, par exemple, de 300 à 60, au panneau 75 mètres, une MotoGP va commencer à freiner au panneau 150, 180 mètres. Et donc, la distance finale est plus longue, et donc ça augmente la possibilité pour le pilote qui a le courage et, en fait, de faire un dépassement sans DRS. Et là, c'est un changement de règlement assez conséquent.
Ah oui, mais nous, on va pas, on fait peur, pas hein. Dans la demi-mesure.
On a du budget, nous. Hein.
Nous, on y va.
Non, mais en tous les cas, c'est intéressant. Ce que nous dit Jackie, c'est qu'il y a peut-être quand même des pistes pour améliorer le sport. Demander aux pilotes de faire sa stratégie. Avoir une Q4 qui pourrait pousser certains pilotes à l'erreur et mixer un petit peu ce qui se passe sur le haut de la grille, comme on voit de temps en temps, et ce qui est assez intéressant. Et puis avoir moins d'appui aéro. Plus de distance de freinage. On sait que Herman Kilke fait beaucoup de circuits aussi avec une ligne droite et au bout vraiment une épingle avec un virage assez large, et puis là ça pousse les pilotes, je dirais, à s'engager, et puis s'ils font une erreur c'est pas très grave, et c'est là aussi où on voit des dépassements au freinage. Bon, il y a des pistes quand même intéressante à creuser.
Voilà, bon, on envoie ce message à nos amis de Formula One, s'ils veulent écouter le podcast, on a des idées pour eux. On va passer, Jackie, si vous le voulez bien, au dernier sujet qu'on voulait évoquer dans les fous du volant avec vous aujourd'hui. C'est d'un aspect évidemment technique, avoir votre regard sur quelques situations. Et on va parler notamment de Red Bull, d'abord parce que c'est la voiture de référence cette saison, et notamment de cette efficacité ahurissante, démoniaque, effrayante même de la Red Bull avec le DRS ouvert. On se posait la question avec Stéphane, comment est-ce qu'ils sont arrivés à avoir une telle efficacité, un tel écart de performance en ayant le DRS ouvert avec des adversaires? On voit bien que l'écart est colossal par rapport à l'adversité. Comment est-ce qu'ils ont fait?
Ça, je ne suis pas Adrian Newey, donc je ne sais pas. Non, mais bon, tout le monde crie un peu au scandale qu'ils sont dominants, mais on a eu les Mercedes qui ont été dominants aussi pendant 4-5 ans. Il y a eu Ferrari avec Schum dominant, il y a les Williams, il y a tout le monde, les McLaren à l'époque avec Prost et Senna et Lauda et Prost.
Il y a eu la Brand GP aussi.
Voilà, exactement. Une saison, mais on a été dominants une saison. Au moins début. C'est vrai. Mais bon. Écoute, ils font une différence avec la concurrence, et on dit surtout, enfin moi j'ai pas les données, qu'au niveau du DRS, il est plus efficace que celui des autres voitures. Maintenant, c'est possible, je pense pas que c'est seulement l'aileron arrière, parce que bon, le DRS c'est le règlement technique même pour tout le monde. C'est clair que j'ai vu sur l'aileron arrière, donc la Red Bull, que le flap est assez grand, et donc quand le DRS s'ouvre, le flap monte, la partie principale, le main plane, comme on dit, l'aileron, est quasiment plat. Donc il n'y a pas un bord de fuite qui monte. Sur d'autres voitures, j'ai vu que même si le DRS s'ouvre, le main plane, toujours un bord de fuite qui monte. Donc ça, c'est moins entraîné sur l'aileron arrière de la Red Bull, mais je ne pense pas que c'est si simple que ça. On sait très bien que la dépression sous le fond plat, donc c'est plus un fond plat maintenant, mais donc la dépression entre le dessous de la voiture et la piste, elle est également influencée par l'écoulement de l'aileron arrière pour le DRS, donc il donne beaucoup moins d'appui, il perd beaucoup d'appui. Et si ça fait également décrocher l'écoulement d'air en dessous de la voiture, on perd encore de la traînée. Bon, c'est clair qu'un aileron arrière, ça a comme on dit, la finesse aérodynamique est beaucoup moins bonne. Hein. Il y a une finesse du genre de 2 sur 1, donc ça veut dire que 2000 newtons d'appui, on a 1000 newtons de traînée. Un fond plat, c'est plutôt une efficacité, une finesse qu'on appelle en aéro de 8 sur 1. Donc, si par exemple un fond plat donne 8000 newtons d'appui, donc il n'y a que 1000 newtons de traînée. Mais quand même, donc si en fait, ils ont probablement, je suppose, développé le DRS de l'aileron arrière de telle façon qu'il fait aussi décrocher l'écoulement en dessous de la voiture. Donc, c'est un supplément de traînée qui part par rapport aux autres voitures où le fond plat ne décroche pas. Il reste toujours l'air accroché au fond plat.
Ce que vous nous dites en gros, c'est que Red Bull a peut-être un petit peu mieux travaillé, en tout cas mieux, a plus intégré l'aérodynamique de la voiture DRS ouvert, alors que les autres équipes ont finalement fait l'aéro de leur voiture DRS fermé, et puis quand le DRS s'ouvre, c'est un bonus. Mais non, eux, ils ont travaillé, on a le sentiment qu'ils ont travaillé avec le DRS ouvert pour vraiment totalement faire fonctionner la voiture avec le DRS.
Ce qui est, je pense, assez intelligent, parce qu'en fait, quand on ouvre le DRS, c'est forcément en ligne droite. Et donc, on n'a pas besoin de l'appui du fond plat non plus, enfin, du dessous de la voiture. Donc.
Et l'autre avantage aussi, ça c'est peut-être ce qu'a réussi aussi à faire Red Bull, c'est que l'agrément aussi d'un DRS qui s'apprécie, c'est quand il se referme. C'est-à-dire qu'il est capable de raccrocher tout de suite le flux d'air, ce qui est important, pour le freinage. Donc ça donne aussi une qualité de freinage. C'est aussi essentiel. Est-ce que Red Bull a réussi aussi ce tour de force au niveau technique?
Ouais, peut-être. Mais bon, en général, quand on ferme le DRS, l'accrochement il se fait dans quelques dizaines de secondes. Donc, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de différence là-dessus avec les autres voitures. Ça, je ne pense pas. Mais ce qu'ils font peut-être aussi, je ne sais pas, c'est important pour la stabilité du freinage, c'est la position longitudinale du centre d'appui. Et donc le centrage aéro, comme on dit, et si le centrage aéro, pendant le freinage, il y a une migration en axe longitudinal, et s'il part de l'avant vers l'arrière, ça demande stabilité à l'entrée du virage. Et c'est tout le monde travaille sur cette même question, mais c'est pas bon. Et peut-être qu'ils ont réussi à faire cela mieux que les autres, ce qui donne un avantage au niveau du... la stabilité au freinage.
Justement, cette histoire de centre de pression, qui est en gros le centre de gravité aérodynamique de la voiture, c'est ce qui semble poser de gros soucis à Mercedes hein, depuis l'année dernière. Et Mercedes doit amener de grosses évolutions pour ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que d'après vous, Mercedes va renoncer finalement à cette philosophie de Formule 1 sans ponton et revenir à quelque chose d'un petit peu plus conventionnel? À quoi est-ce qu'on peut s'attendre de leur part?
Je pense que... Enfin, sincèrement, je pense qu'ils vont revenir à une solution un peu plus conventionnelle. Parce qu'on voit quand même que la Red Bull et la Ferrari et l'Aston Martin, qui sont plus conventionnels que la Mercedes, ils marchent mieux en général, il faut dire ça. Donc, moi, je pense qu'ils vont changer un peu leur philosophie de développement. Et parce que je ne sais pas comment, mais c'est clair que le centrage aéro, la migration du centrage aéro en longi est très importante pour la balance, la stabilité de la voiture, au freinage, mais également le comportement en virage, que la voiture ne change pas trop de balance, de sous-virage en sur. Et j'ai l'impression, quand je vois conduire Lewis et George dans la caméra embarquée, que la voiture est assez nerveuse. Et ça indique en général, c'est un centrage aéro qui bouge trop avec l'assiette de la voiture.
Alors, ce qu'il faut s'attendre, parce qu'une voiture, c'est un ensemble qui travaille en cohérence, c'est des modifications même sur l'aileron avant, le plancher, l'aileron arrière, le DRS. Il faut quasiment tout revoir. Même s'ils ne peuvent pas refaire une voiture entièrement, c'est pas juste redessiner des pontons, c'est repenser tout entièrement. Et ce que cherche à faire Mercedes, c'est ouvrir une nouvelle voie pour des améliorations plus significatives, parce qu'ils étaient en train de stagner en termes de développement.
Je pense qu'ils ont leur concept là, qu'on appelle zéro ponton. Je pense qu'ils ont fait le tour hein. Pendant 2 ans, ils ont tout fait, tout essayé, et ils n'arrivent pas à augmenter la performance de la voiture. Donc je pense que là il faut changer de concept. Bon, c'est pas évident pour des saisons, ça c'est clair, mais bon, je pense qu'ils vont quand même certainement s'améliorer. C'est une équipe très puissante. Mais rattraper Red Bull cette saison, ça m'étonnerait, je ne pense pas.
La question aussi se pose du côté de chez Ferrari. Fred Vasseur dit on observe ce DRS Red Bull parce qu'on cherche à savoir comment est-ce qu'il fonctionne pour le copier. Mais est-ce qu'un DRS Red Bull fonctionnerait sur la Ferrari automatiquement?
Pour moi, non. Parce que c'est un ensemble de choses, en fait. C'est un ensemble de choses qu'il faut étudier ensemble. Il n'y a rien qui est dissociable. L'aileron avant, l'aileron arrière, le dessous de la voiture, les pontons, tout ça fait un ensemble aérodynamique, et c'est pas en copiant un seul élément de notre voiture que ça a le même effet. Donc ça, c'est plus complexe que ça c'est sûr.
Ça veut dire qu'elle va avoir quelle forme d'après vous là? Il va falloir, allez, on s'engage un petit peu Stéphane.
C'est un retour au ponton
classique.
Et en même temps, ça voudrait dire un retour au ponton de l'ancien règlement, ce qui est un petit peu délicat. Donc Ferrari, Mercedes va se lancer un petit peu dans l'inconnu là-dessus en créant vraiment des pontons normaux, ou alors en tous les cas les premiers pontons qu'on avait vus sur les essais à Sakhir.
Tu parles d'il y a un an et demi.
Voilà, c'est ouais. Ça. En 2022, ils vont peut-être nous ressortir ces pontons-là. Ce sont les seuls qui ont roulé pour l'instant, les pontons conventionnels.
Je ne sais pas, mais en plus, c'est pas si évident que ça, parce que le concept zéro ponton, si je pense qu'ils ont tout ce qui est en dessous des pontons, les radiateurs, les échangeurs et tout ça, les échappements de voiture et tout le bordel, les turbos et tout ça, enfin, c'est aussi au milieu, mais il faut quand même trouver de la place, quoi. Donc, si on change des pontons, il faut peut-être déplacer un nombre d'éléments mécaniques aussi. C'est un gros boulot, hein.
C'est pour ça que moi j'irais plutôt dans cette idée, parce que c'est ce que Toto Wolff a dit, hein, qu'il y avait des éléments organiques du moteur qui allaient aussi devoir évoluer dans leur positionnement. C'est ce qui vraiment confirmerait qu'on irait dans cette solution là. Je pose une question toute bête, mais vous, de votre expérience, est-ce que en voyant ce que fait Aston Martin avec une moitié de Mercedes, on n'est pas aller toquer la porte de Aston Martin en disant bon, on vous fait une ristourne sur les moteurs, vous nous filez 2-3 infos parce qu'on est perdu. Est-ce que c'est totalement impossible?
Non, je ne pense pas. Sincèrement, c'est interdit par les règlements déjà, un transfert technologique hors moteur et boîte de vitesse. Mais je ne pense pas que c'est le cas. Et en tout cas, bon, c'est sûr que dans les pubs anglais autour de Silverstone, Brackley, machin, tout ça, les ingénieurs le soir, ils se voient, ils discutent et tout ça. Mais de nouveau, une voiture, c'est un concept total. C'est pas une seule pièce. Je pense que Mercedes à Brackley, ils ont les moyens de le faire, mais ils vont faire leur propre développement.
Alors j'en viens un petit peu à la vision globale qu'on a du DRS, créé en 2011 pour faciliter d'abord les dépassements, parce qu'on se plaignait déjà à l'époque qu'il n'y avait pas assez de dépassements, mais surtout ce qu'on constatait, c'est qu'une voiture leader avait parfois du mal à dépasser le dixième de la course qui roulait une seconde et demie plus lentement. Des fois c'était deux secondes plus lentement et elle avait quand même du mal, et c'était d'abord aussi un petit peu pour ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement permettre toujours ce DRS quand on veut se frayer un chemin dans le trafic, et puis l'interdire quand on attaque le leader, parce que c'est un petit peu appuyer sur un bouton, un push to pass, et ça enlève un petit peu le mérite aussi. Est-ce qu'il ne faudrait pas l'utiliser de façon un petit peu plus discernée?
Par contre, on peut que dans les autres, bien sûr, et quand on est à moins d'une seconde de la voiture qui précède. Maintenant, dire que on peut que dépasser toutes les voitures, sauf par exemple les 5 premiers, c'est une possibilité, mais bon, c'est quand même compliqué, hein. C'est compliqué. Ce qu'ils essayent maintenant, j'ai vu, c'est raccourcir les zones DRS. C'est une solution, mais en tout cas, un DRS, c'est comme une aspi, mais c'est une aspi renforcée. C'est un catalyseur d'une aspiration, en fait. Si c'est trop facile, c'est dommage, ça enlève un peu la qualité du pilotage. Hein, parce que quand même, avant qu'on avait le DRS, les freinages étaient vraiment forcés. Et maintenant, bon, on ne va plus prendre ces risques-là, parce qu'on sait qu'en prochaine zone de TRS, on passe sans risque, donc on prend moins de risques, ça c'est sûr. Donc c'est un peu dommage pour ce côté du spectacle-là. De notre côté, si on n'a pas de DRS, je l'ai dit, avec l'appui gigantesque des voitures à haute vitesse, les zones de freinage sont tellement courtes qu'il est difficile de dépasser.
On en revient effectivement à ce qu'on évoquait un petit peu plus tôt dans ce podcast. On aurait des milliards de choses à vous demander, Jackie, mais on s'est régalé encore une fois. On voudrait vous remercier d'être venu nous voir encore une fois dans les fous du volant. On va voir maintenant ce que nous réserve Mercedes pour ce Grand Prix d'Émilie-Romagne et voir si ils arrivent notamment à réduire un petit peu l'écart avec Red Bull. Ouais. Merci beaucoup.
Au revoir, à bientôt.
À bientôt. On en a terminé et on s'est encore régalé avec Jackie Ekelhart.
Ce qui est génial, c'est qu'il nous donne tout le temps l'impression qu'on aurait pu être ingénieur en Formule 1. Bon, nous restons les ingénieurs du lundi ou du mardi.
Pas moi.
Tout à fait. Les choses compliquées, il les simplifie et on comprend
d'accord.
tout.
Oui.
C'est quand même assez génial. Et puis, on rentre un petit peu plus dans le fonctionnement, la compréhension. Parce que là, c'est vraiment ça. Red Bull a un truc et il nous a donné des pistes de compréhension autour de ça.
Il y a des choses très intéressantes. Très, très intéressantes, hein, notamment sur les rapports entre l'appui que ça procure, la traînée que ça provoque. Et puis effectivement, ce centre de pression aérodynamique sur une voiture, ça, on sent vraiment que c'est la clé, le nœud du problème en Formule 1 en ce moment. On va vous donner quand même la dernière information qu'on peut vous donner aujourd'hui, les horaires du Grand Prix d'Émilie-Romagne, avec vendredi le début des hostilités à partir de 13h30 pour la première séance d'essais libres. La qualif, ça sera samedi à 16h et le Grand Prix départ à 15h. Ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. T'as vu, je le connais par cœur maintenant. Vous pouvez nous noter et nous donner jusqu'à 5 étoiles si ça vous a plu. Et puis vous pouvez également vous abonner. Et de cette manière, eh bien, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On va remercier Alban Ducardonnet qui a beaucoup travaillé pour la mise en ligne de ce podcast. On vous remercie aussi de nous suivre chaque semaine un peu plus nombreux. On se retrouve la semaine prochaine après ce Grand Prix d'Émilie-Romagne. Et d'ici là, Stéphane,
on coupe le contact.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.